Vous êtes à Boulevard 102.1 dans le retour jusqu'à 18h, on s'accompagne. Je m'appelle Audrey Pinchot, accompagnée de Max Larouche. Et la personne qui fait le 16h avec nous aujourd'hui, c'est une personne que j'avais hâte de retrouver à l'automne, pour être bien honnête. Nancy Doyon, SOS Nancy, coach familial que vous avez certainement entendu dans l'open mic à plusieurs reprises. Nancy, salut!
Salut!
Tellement contente que tu te joignes nous autres!
Yay!
C'est la première dans le retour, par exemple.
Oui,
hein?
Première fois.
On dirait que j'ai le goût, on va prendre le temps de te présenter pour les gens qui n'ont aucune idée là, de tes qui, tes formations, ce que t'amènes. Peut-être juste avant, Max, je sais qu'il y a encore des problèmes de circulation, le gros accident sur la capitale tantôt, puis on a des détails.
Oui, c'est surtout un gros problème de circulation. Capitale Est, fermeture des certes pour Robert Bourassa Nord, la déviation qui se fait par Robert Bourassa Sud. Robert Bourassa Sud, fermeture de la bretelle d'accès pour Capitale Est. C'est un accident majeur, tu le disais. Et c'est un accident impliquant un motocycliste. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on craint pour sa vie présentement. Fait qu'on va espérer le meilleur. Mais une chose est sûre, présentement, des gros problèmes de circulation sur la capitale. D'ailleurs, aussi, là, t'as qu'à être dans le circule, l'accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, ça commence aussi à se compliquer un petit peu. Et sur la rive sud, tranquillement, 20 ouest, hauteur chemin des îles, il y a un ralentissement aussi.
88-971-1021 texto. J'ai envie de vous entendre sur la parentalité bienveillante, la parentalité positive, qui est comme une grosse mode sur les réseaux sociaux, on dirait, dans les derniers mois.
Ce qui fait des enfants rois, là.
Ce qui... Nous verrons bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous appliquez, que vous avez vécu, sinon, dans vos familles? J'ai envie de vous lire. Puis juste avant de rentrer vraiment dans ce sujet-là, justement, Nancy, les gens connaissent peu dans le retour. Coach familial, on dirait que pour certains, ça sonne une cloche d'improvisation de carrière.
C'est comme un coach de vie, ça.
Mais c'est ça, là, j'aime pas ça dire ça, parce que je trouve que ça sonne tellement réducteur. Mais peux-tu nous ramener à la réalité un peu sur comment fonctionne ta business, ta formation? Tu sors pas de nulle part. Là.
Non, c'est ça. Écoute, moi, je suis éducatrice spécialisée à la base. Donc, tu sais, j'ai un DEC en éducation spécialisée. J'ai travaillé, ça fait 30, presque 2 ans que je fais ce métier-là.
À peine d'expérience.
Ben, à peine. j'ai travaillé plusieurs années, une dizaine d'années, dans les centres jeunesse avec les adolescents en troubles de comportement. J'ai travaillé en CLSC, en milieu scolaire, primaire, secondaire. Il y a à peu près, pas loin de 20 ans, bon, ça fait 22 ans que je donne des conférences de la formation dans les écoles à des parents, etc. Et à peu près, c'est ça, pas loin d'une vingtaine d'années, je suis allée me former en coaching. Le coaching, que ce soit coach de vie, coach de business, coach... Bref, il y a une philosophie derrière, il y a comme des outils derrière, il y a une façon de travailler qui est un peu différente de l'intervention psychosociale conventionnelle. Moi, pour moi, dans ma carrière d'éducatrice spécialisée, là, ça a été vraiment comme un plus, un gros tournant, parce que je me suis mis à travailler davantage avec les parents sur la compréhension de tous les enjeux relationnels qu'il y a dans leur famille. Tu sais, moi, je suis éducatrice spécialisée. Ce qu'on me demandait beaucoup de faire, c'était de la modification de comportement. Il y a un jeune qui manque de respect. Bon, ben va à domicile, va voir les parents, puis dis-leur quoi faire pour que l'enfant arrête de manquer de respect. Puis, c'était beaucoup ça. Tu sais, quand je travaillais en milieu scolaire, on me donnait aussi une job de pompier un peu. Tu sais, un enfant qui fait une crise, ben Nancy va gérer la crise. Tu sais, et je trouvais qu'on travaillait tout le temps sur la surface, sur la pointe de l'iceberg, sur le comportement. Puis moi, ça me fatiguait parce que je voyais souvent, tu sais, ben oui, mais tu sais, je veux bien travailler sur le comportement. Tu sais, oui, il faut arrêter de tolérer des affaires qui n'ont pas d'allure d'être
tolérées. Mais il y a sûrement une raison pour laquelle ton enfant manque de respect à un certain point.
Ben voilà. Tu sais, puis... quand je suis allée me former en coaching, donc je suis aussi maître praticienne en programmation neurolinguistique, ma première formation en coaching, c'était en coaching d'affaires.
Oh mon Dieu, OK!
Je pensais sortir de l'intervention, puis au contraire, ça m'y a ramené parce que je me disais, ben oui, être le leader d'une entreprise, puis être le leader de sa maison, être le leader de sa classe, c'est sensiblement la même chose. Puis tout le long que je suivais ma formation en business coaching, je me disais, ben oui, j'étais tout le temps capable de faire l'espèce de parallèle. Et c'est là où j'ai fait, oui, le coaching appliqué à la famille. Mais je suis allée voir un petit peu sur Internet qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui existait comme d'autres formations complémentaires. Je suis allée me former, c'est ça, en programmation neurolinguistique. Je suis allée me chercher d'autres outils absolument fantastiques. et j'ai bâti mon coffre à outils progressivement. Et puis là, moi, à ce moment-là, je travaillais en CLSC, puis là, il commençait à y avoir des listes d'attente qui s'allongeaient. On a commencé aussi à avoir des espèces de restrictions sur le nombre de rencontres qu'on devait faire avec les familles, la durée des rencontres, il fallait que ce soit 50 minutes. Puis là, mais tu sais, moi, des fois, on m'envoyait dans une famille où, bon, ben le jeune, il y a un jeune qui a un trouble de l'opposition avec provocation, des parents qui vivent toutes sortes de problématiques, qui n'arrivent pas à s'entendre sur l'éducation de l'enfant. Puis moi, il fallait que je règle ça en 5-6 rencontres.
Ça marche pas.
Puis au bout de 5-6 rencontres, ben écoute, Nancy, c'est, tant pis. Puis aussi, tu sais, ce qu'on me demandait à l'époque, c'était, Nancy, donne-leur des trucs, puis s'ils n'appliquent pas, c'est leur problème. Je disais, oui, mais attends un peu, là. Tu sais, il ne s'agit pas de donner un truc d'intervention. Il faut que le parent soit suffisamment solide pour le faire.
Il y a
faire.
Un processus aussi, là. Ça ne change pas du jour au lendemain.
C'est ça. Tu sais, des fois, je tombais sur une maman qui avait une faible estime d'elle, qui était très... tu sais, une maman très, 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 très douce, très peur de déplaire, peur de perdre le lien avec son enfant. Puis là, il fallait que je lui dise, donne des conséquences. Et des fois, le cheminement que ce parent-là devait faire à l'intérieur de lui pour être capable d'avoir une espèce de posture un petit peu plus solide pour donner une conséquence et ne pas la laisser tomber, c'était beaucoup. À l'inverse, des fois, je disais aux parents, il faut que tu discutes avec ton enfant, il faut que tu lui expliques les règles.
C'est tellement facile à dire.
Oui, facile à dire. Mais tu sais, des fois, je tombais sur... Puis là, je donne des sexe comme ça, là. Mais tu sais, je tombais sur un papa qui avait tout un passé bien difficile, qui venait d'une famille où il avait vécu de la violence, puis qui avait des problèmes de gestion des émotions lui-même, puis qui était explosif. Puis là, il fallait que je lui dise, OK, quand ton enfant t'envoie promener, assieds-toi et discute avec lui. Non, il avait juste envie de tordre le cou.
Écoute, puis j'ai pas d'enfant, puis j'arrive à comprendre, là.
Fait que, tu sais, moi, j'avais vraiment besoin d'aller au-delà de ça. Puis, je sais ça, je me suis mis à appliquer les outils du coaching d'affaires, du coaching aussi en programmation neurolinguistique à travers ma pratique. Je suis allée me chercher aussi d'autres formations sur des approches, l'approche systémique. L'approche systémique, c'est vraiment de travailler avec tous les membres de la famille. Puis ça, c'est intéressant. Tu réalises que l'enfant sage en famille, là, des fois, il fait partie de la raison pour laquelle il y en a un des... Tu sais, l'autre enfant, il a des cornes. Parce que plus l'enfant sage est sage, plus ça fait suer l'enfant qui n'est pas conforme. Puis des fois, plus il a envie d'y tordre le cou. Puis des fois, l'enfant sage, c'est lui qui met le feu aux poudres. Fait que tu sais, on travaille avec tous les membres de la famille.
Une dynamique, là.
Oui, c'est ça, toute la dynamique familiale.
Là, tu as des coachs familiales, mais y a-t-il une différence avec coach parental?
Bien, justement, le coach parental, la plupart des coachs parentaux vont jamais rencontrer les enfants. Vont recevoir soit en clinique ou rencontrer via, mettons, Zoom, les parents, puis ils prennent la version des parents, leur perception, les questions des parents, ils vont répondre à ça. En coaching familial, nous, on va à domicile, fait qu'on voit le milieu de vie de la famille, puis on va faire certaines activités ou certains jeux, mise en situation, jeux de rôle, etc.
Parce que si tu rencontres juste les parents, ça se peut qu'il manque des morceaux au casse-tête.
Oui, exactement. Puis écoute, je pourrais donner 1000 exemples de situations où les parents me disaient, hey, « Moi, mon enfant, il est violent, puis ta-ta-ta-ta. » Puis quand je vais là, finalement, je vois un enfant qui fronce les sourcils puis qui roule des yeux en disant « Maman, t'es pas gentille! » Je dis « Ouf, on
c'est
est pas loin
violent,
de la violence.
Ouais, » c'est ça.
Puis j'ai aussi vu l'inverse, des parents qui me disent « Ouais, mais mon petit garçon, des fois, il se fâche un peu fort. » Puis quand je vais à domicile, je vois l'enfant fâché. Puis
il lance des chaises.
Oui, il lance des chaises, puis il fait sa grand coup de poing sur sa mère. Puis là, je fais comme, ah, t'es un peu fâché. Effectivement.
C'est un petit peu plus que fâché quand même. On a des problèmes, là.
mais c'est ça, quand on fait du coaching familial, on travaille avec tous les membres de la famille dans le milieu de vie de l'enfant. Des fois, on va aller même à la garderie ou à l'école. Je suis déjà allée au cours de patin de la petite Bianca. Je suis allée faire l'épicerie avec maman et ses quatre enfants, une maman monoparentale et ses quatre enfants parce que c'était le dawa chaque fois qu'elle y allait. Donc, nous autres, on s'insère beaucoup plus à travers le quotidien. On voit beaucoup plus les enfants de façon naturelle.
Puis tu le vois de façon extérieure aussi.
Exact.
J'imagine que pour un parent... des fois, t'as pas nécessairement les comparaisons aussi, toi, avec l'expérience que t'as un paquet de comparaisons que tu peux faire, t'as la vision extérieure. Un parent, des fois, avec les émotions, tout ça, et ça se peut qu'il cerne un peu mal.
N'importe quel humain quand il nous arrive quelque chose, on a de la misère à se voir, nous.
Ben oui, on a la face dedans.
Aussi, ouais. Ben oui. Fait que, tu sais, le parent qui me raconte la crise de son ado ou le manque de respect de son ado, ben des fois, il n'a pas vu comment lui, à quelque part, mm-hmm. dans son ton, dans son attitude, il l'a un peu déclenché lui-même, mm. tu sais. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire en amont où il n'a pas vu non plus tous les signes précurseurs que ça allait péter bientôt, puis il n'a pas pu agir en prévention.
Là. Et que ça doit être assez confrontant dur,
oui.
pour un parent.
Ouais, c'est vraiment dur. Ça demande beaucoup d'humilité de la part des parents.
J'en doute pas. Ben anyway, à la base, quand tu rentres dans un processus-là d'aller demander de l'aide, je pense que tu es ouvert à changer. Là, t'es rendu bas, là, j'imagine. Tu sais, quand tu es rendu à demander une aide externe.
Parce qu'il y en a qui doivent penser que hey, j'ai besoin d'aide parce que moi, je fais tout comme faut. C'est vraiment mon enfant le problème, fait que j'ai besoin d'aide. Parce que moi, je suis parfait, là. Ouais, c'est mon enfant qui a besoin d'aide.
Mais les parents qui ne veulent pas se remettre en question, généralement, ils envoient leur enfant chez le psy ou chez le thérapeute, ouais. puis ils disent, ben réparez-le, ce n'est pas mon problème.
Il est brisé.
Ceux qui font affaire au coaching familial, généralement, sont prêts à se remettre en question. Okay. Puis ce n'est pas tout le temps des grosses affaires. Des fois, c'est un parent qui dit, hey, mon coco de 3 ans, là, à l'heure des repas, il ne reste pas en place. Il débarque tout le temps de la table, il ne veut pas manger à moi.
On sait plus quoi faire.
Viens donc voir. Mmh. Fait que là, on va aller manger une fois, deux fois, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe, comme c'est quoi la dynamique, puis pourquoi il reste pas à table. Puis en fonction de son tempérament, en fonction de la dynamique familiale, tu sais, si on a 6 enfants versus si sont deux parents tout seuls avec, c'est quoi le fine-tuning qu'on peut faire pour que l'enfant reste à table et que le repas soit agréable pour tout le monde. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petites affaires, là, problème à l'heure du coucher, ça bug à l'heure des devoirs et leçons. Des fois, c'est des petites affaires. Des fois, ça en est des vraiment grosses, par exemple. Tu sais, des fois, on va aller à domicile, puis il y a des trous dans les murs parce que le jeune, il défonce les murs. Des parents qui ont des bleus.
Ça a été quoi la plus longue consultation que tu as eu à faire?
Hey, moi, j'ai une famille que ça fait plus de 16 ans. Que je suis.
Voyons donc, toi.
Ouais. Mais en fait...
Tu dois te rendre proche de pas mal tout le monde à ce stade-là.
Ben oui. Je l'ai su par intermittence, dans des périodes plus difficiles. Eux autres, là, pour que je sois leur coach, que je sois leur... C'est un peu comme leur sécurité. Fait que, tu sais, j'ai suivi le papa et son ex-conjoint dans la première batch d'enfants. Il y avait un enfant avec un déficit d'attention, des petites cornes, plus difficiles à gérer. Fait qu'on a travaillé ensemble là-dessus. Le jeune, bon, il s'est replacé, ça a bien été pendant un bout. Le couple s'est séparé. Bien, le papa m'a rappelé en disant, écoute, on va se séparer. Comment est-ce qu'on est mieux? Comment je devrais annoncer ça aux enfants? Puis c'est quoi les meilleurs délais avant? Parce que là, c'était déjà fait, il avait déjà rencontré quelqu'un d'autre. C'est quoi les meilleurs délais ou la meilleure façon de présenter ma nouvelle copine? Fait qu'on a fait un bout là-dessus. Après ça, oups, là, bon, il a emménagé ensemble. Puis là, il s'est mis à y avoir des frictions avec les ados, avec la nouvelle conjointe. Bon, mais regarde, comment est-ce qu'on va amener tout le monde à discuter. Fait que je suis allée voir, je suis allée refaire un tour. Moi, j'avais déjà un lien avec les ados. Après ça, ben tiens, oups, ils ont eu 2 autres enfants. Puis le petit dernier, c'est un modèle particulier. Fait que... C'est pas un modèle standard.
C'est un petit différent.
Ouais, c'est ça. C'est pas un modèle standard. Puis, ben les parents aiment bien me revoir. Dire, OK, ben là, comment est-ce qu'on va travailler avec lui la gestion des émotions, la gestion des passions, là, en tout cas, bref. Fait que là, présentement, j'étais avec eux, mais ça fait à peu près 16 ans.
Tu parles de ce cas-là, puis tu as mentionné qu'il y avait eu séparation. Est-ce que des fois, pour toi, c'est touché? J'imagine que ça arrive, là, des cas où un des deux veut travailler avec toi. Ouais. Mais là, les enfants, si t'en gardes, puis là, quand ils retournent l'autre bord, là, ça va pas pendant tout. Puis encore là, t'as les versions d'un, version de l'autre. Ça doit être des cas qui sont particuliers.
Ouais, mais en fait, une des difficultés qu'on a, puis ça, c'est en coaching familial, mais c'est dans n'importe quelle intervention psychosociale, c'est que les deux parents doivent être d'accord pour qu'on travaille avec les enfants.
Okay.
Donc, une des situations qui est assez commune et difficile, c'est quand il y a un des deux parents qui refuse qu'on travaille avec les enfants. Et là, on n'a pas le choix de respecter ça. Mais tu sais, si, admettons, j'ai maman qui refuse qu'on travaille avec ses enfants, mais que papa veut avoir le soutien du coach familial, je peux quand même travailler avec le papa, puis admettons, ça nouvelle conjointe.
Juste pas avec les enfants direct.
C'est ça. Juste que c'est ça. Je pourrais pas donner des trucs, par exemple, de gestion des émotions ou de gestion de l'anxiété aux enfants.
C'est quoi le problème des enfants en 2025? Je pose ma question autrement. Pour quelles raisons les gens te consultent le plus?
Problème de gestion des émotions. Explosion de colère. Gestion des émotions enfants, adolescents et adultes. Colline qu'on a de la misère à ne pas exploser.
Mais ça, c'est fou. Puis le pire, c'est qu'on dirait que c'est un passage obligé là, à l'adolescence. On dirait que tes parents, ils n'ont pas raison. Mon Dieu, qui te tapent ses nerfs, ils sont trop, là, tu sais.
Ouais, fait que ça c'est un des motifs de consultation les plus courants. Moi, mon équipe et moi, c'est sûr qu'on se spécialise beaucoup au niveau de l'opposition des troubles de comportement. Donc, des jeunes opposants, justement, ceux qui font des trous dans les murs.
Même si c'est obligé d'être des relations parents-enfants, mettons que j'ai un collègue qui a un trouble de l'opposition assez fort, là, t'as-tu...
J'ai pas de trouble d'opposition!
Tu vois, c'était pas ton nom à toi qui me venait en tête en premier.
Il y en a une couple ici, m'a dit. Il y en a un autre avec qui je travaille à 10 heures le matin.
On salue Marceau.
On va parler de la tendance de la parentalité bienveillante, la parentalité positive, appelez-la comme vous voulez, là, le gentle parenting, là, si on suit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Grosse mode. Ouais. Puis c'est drôle parce que je m'étais mis à voir des vidéos passées d'une femme qui s'appelle Charlene Patnaud, qui est une fille qui a décidé sur ses réseaux sociaux, elle, de montrer l'éducation de ses enfants parce qu'elle pratique le gentle parenting. Fait que je veux dire, elle montre pas nécessairement toujours ses enfants, mais elle montre toutes ses interventions. Okay. On dirait qu'aussitôt qu'il faut qu'elle intervienne dans quelque chose, elle part son téléphone, puis là, ben, tu l'écoutes gérer la situation.
C'est un peu lourd, ça, d'ailleurs.
Je suis pas sûr que les enfants sont d'accord.
Ben, ils ont 4 et 7 ans, fait que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être pas non plus la conscience d'eux à 100%, du moins probablement de plus en plus, mais... écoute, à un certain point... J'admire le fait que tu sois capable de créer peut-être cet environnement-là de parentalité bienveillante. Mais pour moi, ça ne s'associe pas à une réalité impulsive d'une situation du quotidien. Là, où je suis vraiment pas une bonne personne. Là. Peut-être nous expliquer c'est quoi, mettons, dans ton langage de coach familial, la parentalité bienveillante. Mais...
Là, en fait, faut juste se comprendre, c'est que souvent, l'interprétation que les gens ont de la parentalité bienveillante, les gens pensent que c'est d'être toujours doux. Calme et posé avec nos enfants, de ne jamais hausser le ton, de ne pas faire vivre de frustration aux enfants, et que, ben, on va toujours tout leur expliquer avec patience et calme et zénitude, et que les enfants vont comprendre et bien se comporter.
Je t'annonce que je peux pas être mère, fait. Là.
Non,
c'est ça, là.
Mais les gens pensent que c'est ça, la parentalité bienveillante. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas aussi ésotérique que ça. L'idée derrière la parentalité bienveillante, c'est vouloir le bien d'eux. Tu sais, la bienveillance, c'est ça.
C'est positif à la base, être bienveillant.
Ben oui. Être bienveillant, c'est être respectueux. C'est tenter, et le mot-clé dans ma phrase, c'est tenter de ne rien dire ou faire qui risque de blesser l'enfant dans son amour propre. Donc, et tenter... que nos actions, nos interventions visent à ce que l'enfant s'élève, grandisse, devienne une meilleure personne, mais pas juste qu'il nous obéisse au doigt et à l'œil à tout prix.
Mais c'est pas dangereux comme type de parentalité. Puis je m'explique, là, la première chose qui m'est venue en tête quand tu as parlé de ne pas blesser l'amour propre, c'est ben oui, mais il va se passer quoi, mais qu'il a 18 ans puis qu'il arrive dans le monde?
Ben en fait, le problème est quand on tombe dans l'excès. Tu sais, dans le fond, là, vouloir le bien d'eux. Là. Moi, si je veux le bien de mes enfants, là, bien, si je veux le bien de mes enfants, je vais leur mettre des règles. Ça, c'est permis, ça ne l'est pas. Je vais leur mettre des routines. Ça te tente pas, mais quand c'est le temps de t'habiller, tu t'habilles. Ils vont avoir des tâches à faire. Ben, je suis désolée, mais pour ton bien, ben oui, il faut que tu débarrasses la tâche.
C'est pas d'accepter n'importe quoi, là.
Ben non.
Non, ça, je suis passé de... quand on en parlait de parentalité bienveillante, puis là, vite fait, je me dis, bon, les enfants, ouais. Puis là, juste avec l'explication, je fais comme... OK, c'est vrai qu'à un moment donné, être bienveillant, c'est juste positif. Ben, puis en effet, tant qu'on tombe pas dans les extrêmes...
Être bienveillant, c'est de prendre une saine position d'autorité sur ton enfant. C'est juste que, tu sais, avant ça, l'exemple, à l'époque, moi, quand j'ai 54 ans, là, fait que, tu sais, quand je suis devenue coach familial, ben, éducatrice spécialisée, on était beaucoup dans le retrait. Okay? Dès qu'un enfant se comportait mal, on l'envoyait en retrait. Oui. Puis là, au départ, avant moi, là, c'était à genoux dans le coin, les bras en croix.
Va réfléchir.
Là, après ça, c'est devenu, on va te mettre un coin retrait ou on va t'envoyer dans ta chambre, va réfléchir. Puis après ça, j'ai vu arriver des petits sièges en forme de sablier. Puis là, il y a des intervenants qui disaient, oui, on retire l'enfant dans les escaliers ou sur une petite chaise pendant une minute par année d'âge. Oui, mais attends un peu, là. Tu sais, moi, là, t'auras beau... Si je fais une bêtise, là, je me fâche après toi, Audrey, là, puis je te dis un gros mot. Si je m'assois sur une chaise face à un coin pendant une minute par année d'âge, 54 ans, 54 minutes, bien, est-ce que je vais avoir... Est-ce que je vais mieux me comporter par la suite? Ben mais non.
Tu vas être en maudit d'être assis là plus qu'autre chose. Tu ne réfléchiras pas à grand-chose.
Exact. Je risque de bouillir, de rager. Puis tu sais, quand on dit « j'envoie l'enfant à sa chambre qui réfléchisse », il ne réfléchit pas pantoute. Ça ne veut pas dire de ne pas l'envoyer à sa chambre.
Il faut qu'il y ait autre chose avec.
Ah, c'est ça. Ça se peut que si mon jeune s'emporte dans ses émotions, si c'est un tout petit, là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bien, ça se peut que oui, justement, je me retire avec lui dans un endroit calme pour que, dans le fond, je veux lui enseigner à quand tu es en colère puis que tu débordes, reste pas à côté des gens, tu sais, vomis pas ta colère sur tout le monde, retire-toi dans un endroit qui est rassurant pour toi, puis prends le temps de respirer, de faire quelque chose qui te fait du bien pour te calmer le bonbon. Mmh. Fait que là, admettons, au début, je vais le faire avec l'enfant pour que l'enfant le sente que je suis accompagnée là-dedans, je suis pas tout seul, on fait pas juste me soigner dans une chambre, fermer la porte, dire « Hey, calme-toi! » Tu sais, et on m'aide là-dedans, puis on m'enseigne des stratégies pour me calmer et on valide mes émotions. Un peu plus tard, quand l'enfant est rendu à 5, 6, 7, 8 ans, bien peut-être que quand ça va pas, je peux lui dire « Hey, wow, là, l'attitude, ça dérape, ma grande. Time out, va prendre une pause à ta chambre, va faire de la lecture, va te calmer le pompon, fais quelque chose qui te fait du bien, puis on va se parler tantôt. » Puis si on l'a bien fait avec notre enfant avant, bien
ça risque de bien se passer.
Ça risque de bien se passer. Fait que la même intervention qui était de retirer l'enfant, bien, on la fait juste maintenant avec plus de bienveillance.
Fait que je comprends que c'est une bonne affaire, selon toi.
Bien, moi, oui. Mais encore là, tu sais, si la seule chose que je fais quand mon enfant se comporte mal, c'est de l'envoyer dans sa chambre, c'est pas suffisant. Faut que je vois si j'ai un enfant qui... Bon, tout le monde a, tu sais, des montagnes russes émotionnelles, mais tu sais, si j'ai un enfant que de façon régulière, il s'emporte, ou tu sais, je pense... Hey, j'ai parlé pas plus tard que ce matin à une dame qui m'a téléphoné de la Belgique pour me dire, là, écoutez, j'ai trouvé votre nom parce que, bon, moi, j'ai un enfant qui a un trouble d'opposition. Puis là, elle me raconte un peu sa situation. Et dans le fond, tu sais, écoute, c'est un enfant qui a vécu du rejet, le papa est parti, tout. Il a vécu un paquet d'affaires, puis moi, j'ai juste guidé en disant, bien, tu sais, moi, je pense pas que votre loulou, il vit, qu'il y a un trouble d'opposition. Votre coco, il vit du rejet. Votre coco, il vit beaucoup d'émotions qui sortent tout croche par de l'opposition. Son opposition, c'est juste le symptôme qui va pas bien. Votre jeune a besoin de consulter, il a besoin de pouvoir se livrer, il a besoin de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est un jeune de 12 ans. Fait que, tu sais, des hormones qui embarquent en plus à travers. Fait que, tu sais, moi, comme coach familial, ma job a été d'aider le parent à prendre du recul et dire, OK, non, ne tolérez pas que votre enfant vous insulte. Non, mettez des règles claires, des interdits clairs sur les coups, les insultes, etc. Je comprends. C'est parfait. Oui, il peut y avoir des conséquences et des sanctions quand il ne se comporte pas bien, mais vous allez devoir l'aider sur toute la charge émotive qu'il y a derrière. Donc, la bienveillance, c'est ça. C'est, je ne veux pas juste faire cesser le comportement. C'est je vais aller voir en arrière, puis je vais l'aider, mon kid. Je vais mettre des choses en place.
Un jugement que j'avais beaucoup, Nancy, c'était de me dire... En quoi ça diffère d'un style d'éducation traditionnel, dans le sens où normalement, là, quand tu fais des enfants, tu veux être bienveillant et tu veux le bien de tes enfants, tu sais, à la base, là. Fait qu'on dirait que je pense que mon jugement venait beaucoup de là en me disant, mais là, il n'y a pas un parent qui est mal intentionné, j'ai l'impression.
Non. Ben non, tout à fait, mais tu sais, je trouve qu'avant, moi, quand j'ai commencé ma carrière, on était beaucoup dans le cassage d'enfants. Beaucoup dans tu écoutes, tu obéis, puis quand tu as des bons comportements, on te donne une récompense, puis quand tu as des mauvais comportements, on te donne une punition. C'est super utile avec les chiens. Les enfants, je suis moins d'accord. Puis, tu sais, je trouvais qu'on était beaucoup dans de la réactivité. Bon, c'est sûr que mes premières années, je les ai travaillées en centre d'accueil. Là, fait que, tu sais, on était... Mais on se concentrait sur le comportement, puis on était beaucoup punitifs, je trouvais. Puis, on était beaucoup aussi dans... Tu sais, par rapport à la gestion des émotions, on était beaucoup dans... Tu as le droit d'être fâché, là, mais crie pas, sac pas, pousse pas, bardasse pas, puis finalement, tu as des émotions, mais dérange pas. Refoule-les
un
ça.
Peu. Là, ouais, c'est ça.
Maintenant, par contre, où je suis d'accord avec ceux qui sont pas trop sûrs avec la parentalité bienveillante, c'est que je vois aussi des excès de l'autre bord maintenant. Puis ça, ça me fatigue. Je vois, il y a une liste qui se promène sur les violences éducatives ordinaires.
Explique-moi donc ça.
Les violences éducatives ordinaires, puis j'ai donné de la formation là-dessus, là, mais les violences éducatives ordinaires, c'est, ou il y en a qui appellent ça les petites violences, c'est ce qu'on fait, qui n'est pas de la grosse violence, mais qui est un peu irrespectueux de l'enfant. Fait que, tu sais, par exemple, si je sais, bon, on se rappelle, il y a quelques années, il y avait un papa qui avait obligé sa fille à rester à table tant et aussi longtemps qu'elle ne mangeait pas ses choux de Bruxelles.
Mm-hmm.
Bon, lui, il est vraiment allé dans... C'était pas de la violence éducative ordinaire, là. Lui, il a été vraiment violent parce qu'écoute, elle s'est faite pipi dessus puis tout ça, ça n'avait vraiment pas de sens. Mais combien de parents disent « Tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas mangé tes betteraves. Tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas mangé tout ce qu'il y a dans ton assiette. L'enfant n'a plus faim. » Mais il ne peut pas sortir de table.
Je pense que tout le monde peut plaider. T'sais, j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà vécu, ça. Ben ouais, là, on va dire les vraies affaires.
C'est une
là.
Petite violence qu'on a toutes subie comme parents.
Ouais.
Puis que dans le fond, c'est un peu irrespectueux parce que moi, si j'ai pas faim. Et puis moi, je me suis adré tout le temps. Le père de ma fille, s'il écoute, il va se reconnaître. Il y a plusieurs années, à un moment donné, il cuisine quelque chose. T'sais, puis il y a un steak qui est mariné. Puis j'aime pas le goût. Fait que là, je dis ah, écoute, ça, je le mangerai pas. J'aime pas le goût. Il dit « Non, j'ai pris une heure pour cuisiner, tu vas le manger. » Fait que là, je fais « Hey, tu me niaises. »
Excuse-moi.
Garde, tu le manges et c'est tout. Je fais « Ouais, mais non, mon loulou.
Ouais, » je t'explique, là, on se comprendra pas. Mais c'est drôle. Mais en fait, mais cette image-là, est... ouais, ben oui. on obligerait même... l'enfant à le manger.
Ben oui, c'est
ça. Pas de sens.
On voit que ça fait pas de sens quand c'est nous autres dans une relation de couple, mais on fait ça à l'enfant.
Ouais. Ah, je comprends. Je saisis.
Moi, je le comprends. Moi, ça arrivait souvent, puis ça, je peux plus le comprendre. Quand là, je mangeais, puis là, je mangeais vite, puis là, je me prenais une autre assiette.
Ouais.
Là, ça arrivait souvent que ma mère me disait « Là, t'as repris une autre assiette, t'as décidé de la quantité que t'as dans ton assiette.
Ouais.
Là, tu vas manger ton assiette. »
Ouais, là, je peux plus comprendre. Ou en tout cas, ben, t'sais, si t'as vraiment plus faim, je vais pas faire exploser ton estomac, mais garde, on va le ranger puis tu vas le remanger plus tard. Là, t'sais, on va pas le gaspiller. Ça, je comprends. Mais t'sais, aussi, j'ai vu, justement, la différence entre l'enfant a vraiment exagéré sur sa portion, il a plus faim, on range l'assiette, puis on la ressortira le lendemain pour dîner. Ça, c'est une chose. Mais j'ai vu des parents, admettons, dire, bon, ben t'aimes pas ça, la lasagne au saumon, ben je vais te la resservir pour déjeuner, pour dîner, pour souper, tant et aussi longtemps que tu l'auras pas mangé au complet.
Wow.
Ça devient violent, tu comprends? Tu sais, mais c'est ça. Mais en tout cas, mais bref, la fameuse liste, je suis d'accord en grande partie, sauf que j'ai vu des parents se mettre à avoir... C'est parce que ça manque de nuances.
Mm.
Dans la liste, des fois, c'est juste les exemples qui sont donnés. Puis là, j'ai vu des parents avoir constamment peur d'être violents envers leur enfant. Tu sais, le terme est gros. Fait que, tu sais... Une des violences dont on parle, c'est on dit on devrait pas laisser un bébé pleurer. Êtes-vous d'accord avec ça?
Hey, mon Dieu!
On devrait pas laisser un bébé pleurer.
Moi, je pense pas que c'est normal, des fois, que ça pleure un bébé. Là. Plus, écoute, en même temps, je suis zéro coach. J'ai pas d'enfant, moi, là, mais je me dis...
Non, on sort de notre gros bon sens ensemble.
Mon gros bon sens de base, c'est quand il vient de naître là, jusqu'à 3-4 mois, normalement, quand il pleure, c'est parce qu'il y a un besoin immédiat. Là. Il a fait dans sa couche, et il est fatigué, il y a quelque chose. Là.
C'est ça,
tu laisses pas pleurer parce qu'il y a un besoin.
C'est ça.
À un moment donné, le cerveau se développe, puis des fois, l'enfant, j'imagine qu'il utilise le pleur pour manipuler un peu plus. Je me dis, c'est passé.
Mais en fait, c'est que puisque la phrase qui circulait, ce n'était que ça, on ne laisse pas un bébé pleurer, c'est devenu aussi on ne laisse pas un enfant pleurer. Moi, j'ai envie de rajouter, on ne laisse pas pleurer seul.
Mm.
On ne laisse pas pleurer pendant plusieurs minutes, voire des heures, sans s'en occuper. L'objectif louable de cette phrase-là, c'est que moi, à mon époque, quand je suis devenue maman, beaucoup de parents couchaient le bébé dans la couchette le soir, puis si bébé pleurait, il fermait la porte puis il laissait s'endormir en pleurant.
Oui, s'épuiser.
Oui, s'endormir d'épuisement. Un soir, deux soirs, 10 soirs, 20 soirs, ben oui, c'est vrai que c'est un peu moche. Tu sais, ça se peut que bébé ait un besoin physiologique, bon, j'ai soif, j'ai faim, tata, mais ça se peut aussi qu'il y ait un besoin de rassurance parce qu'il est tout seul dans sa chambre, parce que dans le jour, il est tout le temps dans le... Tu sais, il a peut-être besoin qu'on l'aide à s'entraîner, à être un peu plus tout seul. Il a peut-être besoin, en tout cas, bref, mais de le laisser pleurer longtemps seul, c'est vrai que c'est un peu moche. Ceci dit, effectivement, son cerveau se développe. À un moment donné, ben ça se peut... C'est parce que je vois des parents qui sont partis de « on laisse pas l'enfant pleurer » à « mon enfant ne devrait jamais pleurer ». Donc, dès que mon bébé pleure, or c'est son seul langage, son bébé, dès que mon bébé pleure, je panique. Et là, je me dis, il faut que je fasse tout et n'importe quoi pour m'assurer qu'il ne pleure pas.
Un petit peu problématique, là.
Et là, ben, l'enfant, il vieillit. Puis tu sais, tu comprends que les parents sont rendus à dire « hey, mon bébé, il a 36 mois ». Ben, tu comprends que le bébé de 36 mois, ça se peut qu'il pleure parce qu'il veut avoir un suçon. Ça se peut qu'il pleure parce que ça ne tente pas d'aller se coucher le soir.
Si tu donnes son suçon, le problème, c'est que maintenant, il devient ado.
Voilà, et c'est là que l'excès ou la distorsion dans la parentalité bienveillante fait des enfants rois. C'est là où des gens qui sont mal informés sur ce que c'est la parentalité bienveillante. Moi, je parle plus de fermeté bienveillante. Juste comme pour démêler les gens. Ça prend un cadre, puis appliquer avec respect. Mais quand on est juste dans la distorsion à ce niveau-là, puis qu'on a peur d'être violent, on en vient à dire, ben je ne dois pas faire vivre d'inconfort à mon enfant.
Oui, moi, j'ai de la misère avec ça, là.
Je dois m'assurer qu'il n'est jamais triste. Je dois tout faire pour qu'il soit toujours bien. Je dois toujours lui expliquer. Bien sûr que je vais toujours expliquer mes règles à mon enfant. Puis ça se peut qu'il ne comprenne pas, puis ça se peut qu'il n'adhère pas, puis ça se peut qu'à un moment donné, je suis obligée de dire « Ouais, mais c'est ça, mais c'est tout. » Hein? C'est, je comprends que tu ne comprennes pas, là, mais c'est non négociable.
Je suis ta mère.
Oui, c'est ça. Mais oui, par respect, si je te demande de faire ta part des tâches rendues à 9 ans, ben, je vais avoir pris le temps de t'expliquer que ben, dans la vie, tout le monde partage les tâches, puis tout ça. Mais si le jeune n'est pas d'accord, je vais dire, ben, braille, crie, chiale, faut que tu vides de la vaisselle pareil.
Oui, pas le choix. Ça fait partie des règles. Avant qu'on continue, Nancy, Max, il y a des gros problèmes de circulation?
Oui, c'est assez intense présentement. Capitale Ouest, hauteur boulevard Saint-Jacques, dans le contresens, ben, c'est carrément bloqué en raison d'une panne. Capitale Ouest, hauteur Première Avenue, la voie de gauche qui est bloquée par un accident. Robert Bourassa Sud, l'accès depuis Capitale Ouest, partiellement entravé, la voie de droite bloquée par un accident. Même secteur, on nous rappelle, là, puis ça, c'est pour l'accident de moto. Là, on craignait aux dernières nouvelles pour la vie d'un motocycliste. Capitale Est, fermeture desserte pour Robert Bourassa Nord, déviation qui se fait par Robert Bourassa Sud. Robert Bourassa Sud, fermeture bretelle d'accès pour Capitale Est, accident, les services d'urgence qui sont sur place. L'accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, petit ralentissement aussi. Et sur la rive sud, 20 ouest, hauteur chemin des îles, ralentissement également.
J'ai envie de te demander, Nancy, le parent, là, parce que dans cette optique-là de parentalité bienveillante, de ce que je comprends, c'est qu'il faut que le parent fasse attention justement aussi à ses réactions, à la façon dont il apporte les choses. Je suis pas parent, mais moi, je sais que demain matin, j'ai un ado devant moi qui me fait de l'attitude, qui me confronte, qui me challenge, qui... Difficile de garder mon calme puis de rester saine d'esprit dans mes réactions, pour
t'sais,
vrai.
Tu parles de l'adolescent, mais tu sais, quand Victor, 3 ans, veut pas ramasser ses jouets, puis qu'il boque, là, ouais. Ah, c'est dur aussi de tout le temps rester calme et doux et zen. Puis Charlotte, qui refuse de faire ses devoirs, puis... c'est sûr que comme parents, on est des humains qui éduquent des humains. Puis là, ben écoute, dans la parentalité bienveillante, le proche parent, c'est la parentalité positive. Puis dans la parentalité positive, on essaie de trouver des alternatives aux punitions. Mais tu sais, comme parent, on ne réussira jamais à être toujours calme, à n'être jamais irrité ou irritable. En tout cas, surtout pas moi, ma fille vous le confirme. Ben, moi, là, j'ai inventé la loi du 80-20, mais pour les parents.
Ah, mon Dieu, OK.
Moi, je me suis dit que 80% dans la vie, c'est une bonne note, ça.
Oui, très bonne note.
Bon, fait que moi, là, je me suis dit, si j'étais un pas pire parent pantoute 80% du temps, on est en business. Mais j'avais droit à mon 20 % de part en poche.
D'erreur.
C'est ça. Fait que j'ai droit à mon 20 % de moment où ça ne sort pas tout à fait comme je voudrais que ça sorte. Je suis pas tout à fait aussi à l'écoute. Mmh. Je manque de patience pour négocier avec mon jeune. Je suis un peu plus carré. Puis moi, j'ai un tempérament fort. Puis ben, je me dis aussi des fois, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Fait que des fois, si je vis une grosse semaine au travail, si je suis en séparation, si financièrement, j'arrive pas, bien peut-être que ma note de passage sera 65-70.
Mmh. T'as tes enjeux personnels aussi à un moment donné, là?
Ben oui. Puis, ben les parents, les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Tu sais, dans le fond, là, moi, les fois où j'ai pogné une heure devant l'argumentation de ma fille, là, mmh. Bien, ma fille, elle a compris que ben, maner de la patience des gens a toujours bien un bout.
Mmh. Elle a pogné ta limite.
C'est ça. La fois où elle essayait de me montrer un dessin, puis je n'étais pas disponible, j'ai fait puis elle ne s'est pas sentie comme. Bien, elle a appris que ben, des fois, les gens peuvent ne pas être totalement avec toi dans la relation, mais qui t'aiment pareil. Mmh. Des fois où j'ai levé le ton, puis je peux avoir dit des paroles blessantes, puis qu'après ça, je suis allée présenter mes excuses, ben ma fille a appris que ben, elle a le droit, elle aussi, de se tromper, puis d'assumer ses erreurs la tête haute. Tu sais, je me suis adrée tout le temps, à un moment donné, je me suis un peu emportée. Puis moi, je n'étais pas une crieuse, mais je faisais des pluies de reproches.
Ah!
Là, je t'ai demandé ça, puis encore ouais, ça. Puis, un peu, tu sais, des propos culpabilisants. Là. Fait que, bon, je l'échappe un soir, puis je vais voir ma fille, puis je dis, ah, écoute, je suis désolée, là, je pense qu'il y a une partie qui ne t'appartient pas là-dedans. Je suis un peu stressée, tata. Fait que, t'acceptes-tu mes excuses? Fait qu'elle accepte mes excuses, et elle a appris l'indulgence, vous comprenez? Et à un moment donné, je dis là, je pense que ça va aller dans mon 20 % de part en poche. Hein? Fait que du haut de ses 9 ans, elle me dit « Ouais, mais là, toi, maman, si t'as droit à 20 % de part en poche, moi aussi.
» Fait que là, je dis
« Ah ben non, non.
» Non, c'est ça, dans le fond, ça ne fonctionne pas comme ça.
Toi, t'as droit à bien plus que ça. Toi, t'es en construction, ma chupinette.
Ouais.
Tu sais, t'as droit même à 40 % de filles poche. T'es en construction. Mm. Fais des erreurs, mais assume-les. Mm. Trompe-toi, mais assume-le.
Il y a du beau là-dedans aussi, finalement.
Ben oui, c'est ça. Puis quand ma fille me voit prendre soin de moi après, elle me dit, ben écoute, si je veux mieux manager ma genre à patience, sais-tu quoi, m'en aller me prendre un bon bain, puis ça va me faire du bien, fait que dérange-moi pas pendant la prochaine demi-heure. Ben, elle voit que, ben, quand je manque de patience, je fais des choses pour ma faire
c'est
du
l'exemple.
Bien.
C'est l'exemple,
ouais. Oui, c'est ça.
Ah, t'as raison.
Tu sais, fait que quand nos enfants, tu sais, puis la parentalité positive, bienveillante, tu sais, notons la parentalité positive, puis j'ai une formation là-dessus qui s'appelle l'ABC de la parentalité positive. L'ABC de la discipline positive, bien, l'objectif, c'est de diminuer le recours aux punitions et aux menaces.
OK.
Mais ça se peut que des fois, on soit obligé d'aller vers des conséquences logiques.
Puis il faut.
Un peu inévitable,
ben oui, c'est ça.
Ça.
Mais on essaie de voir et d'explorer d'autres façon d'aller chercher la collaboration de l'enfant autrement que par « là, tu m'écoutes, sinon tu vas aller en retrait. Mmh. Là, tu fais ça, sinon... » On essaie de trouver d'autres
mais
solutions.
Je trouve ça rassurant
ce que
tu dis.
C'est pas la fin du monde si on l'utilise de temps en temps.
Je trouve ça rassurant parce que dans toutes ces affaires-là qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a beaucoup de « prenez le temps d'aller respirer quand vous vous sentez challengé. » Mais moi, je me dis tout le temps « ben oui, mais tu viens de te faire insulter en pleine face. Tu peux pas mettre un pause comme dans le film Click, là. »
Non, c'est ça.
T'sais, tu peux pas aller respirer, revenir puis espérer une bonne réaction là, si ça se passe maintenant. Ouais. Fait que c'est
puis
un
moi,
peu
tant
plus
qu'à
difficile.
Moi, dans mon approche à moi, tu sais, je parle beaucoup de leadership éducatif, pour moi, je trouve ça correct et justifié que si mon enfant me manque de respect, qu'il ait 3 ans ou 13, que je fasse un « hey, oh, stop, on va changer de ton ». S'il y a 3 ans, ça se peut que je fasse « Eh oh, non! » On ne parle pas comme ça, on va se calmer. Mm. Et ça se peut que je lève le ton un peu et que je sois un peu brusque, même si l'enfant n'aime pas ça, puis que quand je sors mes gros yeux, les petites larmes coulent.
Pour instaurer une limite.
Ben oui, puis pour qu'ils comprennent que c'est-tu quoi, c'est pas la fin du monde, parce que dans une demi-heure de ça, on m'a donné des bisous sur le ventre.
Ouais.
Tu sais, mais que je veux que tu comprennes que ben, des fois, quand tu vas trop loin, les gens peuvent être fâchés, lever le ton, sortir les gros yeux, puis la terre continue de tourner. Mm-hmm. Puis moi, ben, tu sais, je vais te respecter du mieux que je peux dans ma façon d'intervenir auprès de toi, mais je vais aussi t'imposer du respect à mon endroit.
Je trouve ça bien. Il y a plusieurs textos qui entrent. Possible de retrouver la capsule d'aujourd'hui avec Nancy, absolument. Ça va être sur le blvd.fm. Nancy Doyon, SOS Nancy, coach familial. C'est toujours intéressant de jaser, vraiment. Tu restes pas loin de toute manière, là?
Ben oui,
t'en
pas loin.
On revient dans les prochaines minutes à Boulevard 102. Vous êtes dans le retour jusqu'à 18h. On s'accompagne. Il y a quoi que ce soit en passant, difficile sur les routes, entre autres, là, 88 971 102, un texto.
Le retour